Bonjour à toutes et à tous. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Romains 15 que Paul nous donne, il nous fait cette prière et nous la devons faire pour nous-mêmes. Car l'espérance, c'est quelque chose de très important. Avant de commencer, il y a un dicton ici en France, un proverbe, qu'il dit, vous connaissez tous, hein, il dit que la curiosité, c'est un vilain défaut. La curiosité, c'est un vilain défaut. Est-ce que vous êtes curieux? Moi, je le suis curieux, très curieux, mais pas pour me mêler des affaires des autres. Déjà, je n'arrive pas à régler les miens, mais des choses qui me tiennent à cœur, j'aime savoir. Si quelqu'un ou quelque chose me tient à cœur, alors là, je fonce, j'essaie de savoir le plus possible sur cette chose, ou sur cette personne. Et naturellement, en tant que chrétien, je crois en Dieu et j'ai réveillé ma curiosité et je me suis dit, mais qui est Dieu? Et aussi, qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer toute chose? Vous n'êtes jamais posé cette question? Qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant de créer toute chose? Il était où? Il faisait quoi? Je me suis posé cette question. Bien sûr, où voulez-vous aller chercher toutes ces choses-là? C'est pas quelqu'un, il peut vous le dire. On ne peut pas. Donc, je me suis tourné vers la parole de Dieu. Car Dieu, il nous dit toujours, cherche-moi et je te révélerai de grandes choses. Je suis sûr que, je ne sais pas si vous avez eu cette curiosité de savoir qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant toute chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, ce matin, on va voir toutes ces choses-là. On aura beaucoup de versets à lire, et c'est normal, parce que je ne vous dis pas les choses que moi, j'invente. Je les sors de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est le livre d'amour que Dieu nous a donné pour que nous puissions le connaître. Hein, il nous a dit, dans Amos, il nous a dit, « Je t'ai fait connaître ma volonté. » Je te l'ai fait connaître. Où est-ce qu'elle est révélée? La volonté de Dieu, les pensées de Dieu, les desseins de Dieu dans sa parole. Donc, ce matin, on va voir qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait avant le commencement de toutes choses? La première chose qui me concerne, qui nous concerne, c'est ce qui nous est dit dans 1 Jean 4:8. C'est un verset où il y a trois mots. Il dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Vous me direz, mais si Dieu, c'est la première, il était là depuis toujours, pourquoi est-ce qu'il s'est défini Dieu et amour? Qui est-ce qu'il aimait? S'il est le seul, est-ce qu'il s'aimait lui-même? Non. Donc il devait y avoir quelque chose pour pouvoir manifester son amour, quelqu'un pour manifester cet amour. Et ce quelqu'un-là, on le trouve à travers toute la Bible. Et ce quelqu'un-là, c'est le Fils de Dieu. Bien sûr, il y a des gens qui diront, mais Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Eh bien, ces gens-là, ils se trompent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il nous dit qu'il y a un fils. Regardez dans Proverbes. chapitre 30, le verset 4, il dit « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu ? Qui a recueilli les vents dans ses mains ? Qui a serré les eaux dans ses vêtements ? Qui a fait paraître les extrémités de la terre ? Quel est son nom ? Et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ?» Ici, il parle du Fils de Dieu. Le sais-tu ? Le nom du Fils de Dieu. Donc, Dieu, il a un fils. Dieu, il a un fils. Et d'autres disent que ce fils, il a été créé. On me dirait, oui, un fils, il faut qu'il soit créé, n'est-ce pas ? On ne peut pas faire autrement. Mais avec qui Dieu a eu ses fils ? Voilà. Là aussi, c'est des questions qu'on se pose et que des gens, ils y répondent. Par exemple, des gens, ils disent que la mère, la Vierge est la mère de Dieu. Là encore, il faut aller beaucoup plus loin. Hein? La mère de Dieu. Hein? Alors, ce fils, qu'est-ce qui... Regardez toujours Proverbe. Proverbe chapitre 8, Proverbe 8, je vais bien les trouver parce qu'il y est, le verset 30, voilà ce qu'il dit, le Proverbe 30. J'étais à l'œuvre avec lui. C'est-à-dire qu'ici, c'est le fils qui parle. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les hommes. Ici, ce fils, c'est Jésus. Et ici, ces deux versets, ils sont partagés en deux. Parce que premièrement, il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. À l'œuvre dans la création. Et il dit, je faisais tous les jours ses délices, son bonheur. De qui ? De Dieu. Pouvez-vous imaginer si ce fils, il a été créé, donc Dieu, il était dans la tristesse. Il n'avait pas cette joie. Donc, ça nous montre bien que Dieu est amour, et cet amour, il l'a partagé avec le Fils et le Saint-Esprit. Nous qui sommes bibliques, nous qui sommes chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ces personnes, il nous a dit qu'ils sont tous les trois co-éternels. Il n'y a pas quelqu'un qui a été créé. Ils ont toujours été là. Ça, c'est difficile à comprendre. Je vous l'ai déjà dit tant de fois. N'attendez pas de moi que je vous explique la Trinité. Je ne peux pas. Je ne peux pas, pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à saisir cela. En tant qu'humain, me dire que Dieu est une, mais il est trois en même temps, alors là, mon intellect, mon intelligence ne saisit pas. Mais Dieu, il le dit, Dieu, il se manifeste ainsi dans la parole de Dieu, parce que déjà au premier verset, lorsqu'il dit « Au commencement, Dieu, il a créé les cieux et la terre hein, », il parle, le mot « Dieu », il est au pluriel. Normalement, c'est singulier, « Dieu », mais non, dans le livre hébreu, c'est au pluriel, c'est « les dieux ». Et ensuite, plus loin, on le voit, on dit « bon, créons l'homme à notre image. Si, s'il est un seul Dieu, Il va dire créant l'homme à mon image. Non, il dit à notre image. Et il y a tant d'autres exemples comme ça qui nous montrent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous croyons cela parce que la Bible, il l'enseigne. On appelle ça la Trinité. Ne cherchez pas ces mots dans la Bible parce qu'il n'y est pas. Mais comme on dit, un Dieu, trois personnes, c'est triunité. Unité en trois personnes. Un jour, lorsque nous serons devant lui, nous allons voir toutes ces choses-là. Pour le moment, nous avons la foi en ce que Dieu nous dit dans la Bible, nous le croyons. Voilà pourquoi la chose la plus importante concernant Dieu, c'est que je sais que Dieu est amour. Et cela, il l'a manifesté depuis toujours. Chacun de nous, il peut témoigner de cela. Il y a... Alors, Dieu est amour, mais il faisait quoi avant? Avant la création de toutes choses. Il n'y avait que ces trois personnes. Rien n'avait pas été créé encore. Parce que la Bible, il nous le dit. Regardez dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. On va lire des versets pour que vous ne puissiez pas penser que je vous dis des choses qui sortent de moi-même. Je vous dis des choses qui sont dans la parole de Dieu et c'est quelque chose que nous devons faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible. Alors, voilà ce qu'il dit. Chapitre 13, le verset 20. Quel est Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Les mots que j'aimerais qu'on concerne bien ici, c'est le Dieu, les grands bergers des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Alliance éternelle. Ça veut dire quoi, alliance? Je ne suis pas français, mais je sais ce que c'est. Hein. C'est quelque chose qui a été établi entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et en plus, au bout de cette alliance, il est rajouté éternel. Ça veut dire quoi, éternel? Pas comme les mots qu'on utilise aujourd'hui, une chanson éternelle. Non, ça ne peut pas être éternel de quelque chose... D'ici, les mots éternels, on doit l'utiliser que par Dieu, que sur Dieu, pardon. C'est sur Dieu qu'on doit utiliser le mot éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui est éternel. Éternel, ça veut dire ni commencement, ni fin. On l'entend, je vous l'ai dit, on l'entend beaucoup, la chanson éternelle. Non, la chanson, il a eu un commencement. Mais c'est un mot qu'il faut utiliser, qu'est pour Dieu. Alliance éternelle. Quelle est cette alliance? Il y a trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Déjà, avant d'avoir commencé toute chose, ces trois personnes, ils ont fait alliance. Il y a Dieu le Père qui a préparé le salut. Parce que vous savez, il n'y a rien au hasard. Tout ce que Dieu a fait, c'est, il doit arriver et se préparer d'avance. Il y a le Père qui est l'auteur du salut. Déjà, il pensait à moi, il pensait à vous. Hein. Le Père, c'est l'auteur. Le Fils, c'est celui qui l'a accompli le salut, et le Saint-Esprit, c'est celui qui l'a mis en route. Nous l'avons vu ce matin dans l'étude, hein, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc du péché, du jugement. Voilà. C'est lui qui donne la puissance aux serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent l'annoncer. Donc, c'est une alliance éternelle. Ils ont fait ça avant le commencement de toutes choses. Donc, vous voyez, ils n'ont pas chômé, hein. Et ça, il nous le dit, que cette alliance, elle a été accomplie par le Fils sur la croix de Golgotha. Il y a un autre verset. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse. Il faut chercher. Alors, 13, verset 20. Voilà ce qu'il dit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Quel est ici le... Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que Dieu, les trois personnes, ils ont déjà pensé à tous ceux qui viendraient au monde. Hein? Aujourd'hui, nous sommes là. Dieu, avant la fondation du monde, il a pensé à moi. Dieu, il a pensé à vous. Et il a dit clairement qu'il a préparé un livre de vie dans lequel il y a écrit mon nom, ton nom, vos noms, si vous vous confiez en Jésus. C'est le livre des vies. Pourquoi cela? Parce que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le souhait de Dieu. Ne croyez pas que Dieu, il désire la perte. Dieu a écrit tous les noms de tous ceux qui sont venus, de tous ceux qui viennent, de tous ceux qui viendront. Ils sont écrits dans ce livre des vies. Tous y sont écrits. Mais alors, comment ça se fait que... La question, c'est, lorsqu'on accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, notre nom, il a été repassé avec le sang de Jésus-Christ, que c'est un sang qu'on ne peut pas effacer. Les autres noms, ils s'effacent tout seuls. Ça, c'est la condition de Dieu. Tous y sont écrits dans le livre de vie, mais il dit, tu veux que ce nom, il reste écrit, alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est clair et c'est net. D'ailleurs, on va plus loin, chapitre 22 de 20, je crois, d'Apocalypse, dans le grand trône blanc, dans lequel tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils sont là pour être jugés. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il ouvre les livres de vie. Tu t'appelles comment? Aldo? Ah, Aldo, il n'y est pas. Et pourtant, il y était écrit. Parce que Dieu, il veut que tous y soient sauvés. Il regarde, Aldo, tu n'y es pas. Pourtant, il y était. Mais puisque je n'ai pas accepté, mon nom a été effacé. C'est ça le... Dieu a préparé tout. Ne croyez pas que c'est les hasards. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'a pas la même intelligence que nous. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas arriver à la même hauteur que Dieu. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à la même hauteur de Dieu, mais on serait Dieu. Il faut bien qu'il y ait un Dieu qui connaît toutes choses. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé ces livres de vie et c'est là que chaque nom de tous, ils sont inscrits. Mais si on n'accepte pas, Jésus-Christ, ce nom, il va s'effacer tout seul. Et on voit ça, regardez, dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, le verset 4 et 5. Disons même les 3. Il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. » Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Avant la fondation du monde. Il nous a bénis avant la fondation du monde. Mon cher Aldo, Dieu, il t'a béni avant la fondation du monde. Aldo, il n'était même pas là. Je ne sais pas où il était. Hein. Comme vous, vous ne savez pas où il était. Mais Dieu, il a pensé à vous. Dieu, il a vu dans toute son omniscience. Il a vu le moment où quelqu'un vous a parlé de Jésus-Christ et vous avez dit oui. Dieu, il a vu ce moment. Voilà pourquoi nous sommes élus. Nous sommes les élus de Dieu. Par rapport à notre réponse, Dieu, il nous a élus. Et il nous a prédestinés. C'est ce qu'il dit le verset. Il nous a prédestinés à quoi? À l'adoption. À être des enfants de Dieu. À être des enfants de Dieu. Avant la fondation du monde. C'est ça qu'il a pensé toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui est incompréhensible, n'est-ce pas? Allez dire ça aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne lisent pas la Bible, et dites-leur ça. Tu sais, mon ami, moi je suis béni avant la fondation du monde. Mais Dieu, il le dit. Et je crois Dieu, moi. Les jours que j'ai accepté Jésus-Christ, il m'a béni. Et il me dit même que je suis assis à la droite de Dieu. Vous êtes ici, mais si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes assis là-haut. C'est pas moi qui vous le dis, c'est ici, hein, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Et le verset nous dit que nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça les bénédictions. On vient de chanter là. Compte les bienfaits de Dieu. Si tu peux. Mais nous ne pouvons pas compter les bénédictions de Dieu. Je suis sûr que chacun de nous, depuis qu'on s'est réveillé, depuis qu'on a mis les pieds sur terre, dans notre chambre, Dieu nous a inondé de bénédictions que nous ne savons même pas si c'est une bénédiction ou pas. C'est ça qui nous dit ce verset. Hein, que Dieu, selon ce conseil, il a préparé le salut. Et il a écrit tous les noms dans le livre de vie. Et il nous dit, et tout cela avant la fondation du monde. Et il nous a élus comme enfants d'adoption, et il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Hein, je vous l'ai dit très très souvent, hein. Des fois je me regarde à la glace et me dis Aldo que t'es beau, hein. Et pourtant je ne suis pas beau, hein. Mais je suis beau comment? Mais je suis beau en Jésus-Christ, parce que déjà Dieu il m'a donné cet avenir là d'être enfant de Dieu, et je suis prédestiné à être comme son Fils. Et qui est plus beau que Jésus? Personne. Ce n'est pas une beauté physique, hein, mais la beauté spirituelle. Et c'est cela qui doit nous intéresser. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne se plaisent pas en se regardant la glace. Et peut-être qu'ils vont se f- f- faire des opérations. Ah, j'aime pas mon nez et tout ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Dieu nous a créés comme ça et nous devons accepter comment Dieu nous a créés. Ce n'est pas à nous de changer. Parce que si on a Jésus-Christ, nous serons prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Et cette grâce que Dieu nous a faite, il nous a été manifestée. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 1, 9 et 10. Prenons le 8 aussi. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Nous n'étions même pas là et déjà Dieu il nous faisait grâce. C'est ça la beauté. C'est ça les choses merveilleuses que Dieu nous révèle. Et cette grâce nous a été donnée pas parce que nous avons fait ou nous ferons quelque chose d'extraordinaire, mais il nous l'a donné par grâce. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit aujourd'hui dans cette vie? Il n'y a rien de gratuit. Déjà, quand on nous donne quelque chose de gratuit, on se fait des idées, mais pourquoi il me le donne, lui? Mais Dieu, il nous donne son salut gratuit. Nous n'avons rien à faire. Un peu comme le peuple d'Israël lorsqu'il est parti de Babylone. Le roi, il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Des lettres et tout. Il a dit rentrez et reconstruisez les temples de Jérusalem, ses portes et tout ça. Et vous présenterez ces lettres à ceux qui sont là parce que c'était occupé par le roi de Babylone, n'est-ce pas? Il était occupé et avec ces lettres, c'était marqué tout est payé par les rois. Et nous, c'est exactement pareil. Nous n'avons rien fait, mais tout a été payé. Par qui et comment? Mais par le Fils, qui est l'auteur et qui est celui qui a accompli le salut. Et c'est grâce à lui. Toutes ces choses-là, c'est grâce à lui. Mais regardez un autre verset. Éphésiens. Chapitre 3, les versets 1 à 16. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ, pour vous païens, si vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Quel est ce mystère? C'est ce mystère, ce que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que Dieu il a fait pendant, avant la création de toutes choses, mais il nous le dit ici, il a déjà préparé l'Église. L'Église, le mystère. Paul, il nous le dit, les mystères. C'est par révélation que j'ai eu cette connaissance. Cette révélation qu'il n'avait été pas faite auparavant. L'Église, il était inconnu. D'ailleurs, Jésus, il a dit lui-même, j'ai bâtirai mon Église. Ça n'existait pas. Et tout ça, il a été révélé à Paul. Et Paul, il a pu dire toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Notre frère nous en a parlé ce matin, hein? C'est tout l'ensemble de tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Hein? C'est l'ensemble des croyants. Et qui dit croyant, à cette époque-là, il y avait les juifs. Les païens, ils étaient mis de côté. Donc, où tu es juif, tu participes, tu vas au temple, tu fais des sacrifices. Si tu ne l'es pas, tu n'as droit à rien. Hein? Vous êtes sans alliance, vous êtes sans Dieu. Voilà. Mais le mystère de l'Église, il nous le dit, c'est que les païens, ils sont cohéritiers et forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ. C'est pas seulement pour le peuple juif, mais c'est aussi pour ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif. C'est-à-dire que en acceptant Jésus-Christ, ils rentrent dans la promesse. Et il nous le dit, vous étiez sans cité, vous étiez sans alliance, mais maintenant, par Jésus-Christ, nous rentrons là-dedans. Et il nous est dit plus loin, dans un autre endroit, Paul, il nous dit que des deux, Christ, il en a fait un. Entre les Hébreux et les païens, par le sacrifice de Jésus-Christ, si on croit en Christ, il n'y a qu'un seul peuple et il y a l'Église. L'Église, ce n'est pas une invention. C'est Dieu qui l'a conçue dans ses desseins, dans ses conseils, il l'a préparée. Et tout ça par et grâce à Jésus-Christ. Que nous puissions nous rendre conscients de ce que ça veut dire d'être membre d'une Église. Pas membre d'une église d'un bâtiment, mais membre du corps de Jésus-Christ. Et tout ce que nous faisons pour cette église, pour ce corps, nous le faisons pour le Seigneur, et pas pour les beaux yeux du pasteur ou pour les conseils, non. Je le fais pour le Seigneur, parce que c'est lui le chef de l'église. C'est pas moi le chef de cette église. Il n'y a que Christ qui est le chef de l'église. À l'extérieur, il y a quelqu'un qui se dit qu'il est le chef de l'Église. Il n'y a qu'un seul chef, et c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut bien prendre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a préparé depuis le commencement. Tout a été déjà établi. Toutes les choses que Dieu a établies avant le commencement de toutes choses, la chose, il va se réaliser. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ça qui compte le plus. Tous, chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont cohéritiers. Vous savez ce que ça veut dire, cohéritier? C'est-à-dire que l'héritier, c'est Jésus-Christ. Mais si je l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, il nous dit que nous sommes cohéritiers. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. C'est-à-dire que j'hérite avec Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a en tant que fils, il sera à moi. Tout ce que nous souffrons ici-bas, c'est rien. Et c'est vrai que des fois, nous plaignons, n'est-ce pas? Ah, j'arrive pas à la fin du mois, j'ai plus d'argent, j'ai pas ça. Pensez à ce que nous aurons. Pensez à ce que nous serons. Co-héritier de Dieu, co-héritier du Fils de Dieu. Lui qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et nous aurons ce pouvoir. Il nous a dit que nous régnerons avec lui. Moi, vous, qui vous n'êtes rien ici-bas sur cette terre, vous allez régner, nous allons régner avec Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est Dieu qui vous le dit. Alors, pourquoi ne croyons pas à Dieu? Pourquoi chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, nous allons pleurer? Comme il a dit le frère pour celui qui a écrit ce cantique. Il venait de l'écrire lorsque sa famille, il venait de mourir. Et pourtant, voilà, il a écrit ce beau cantique en disant, je me remets entièrement entre les mains de Dieu. C'est lui qui dispose de toutes choses. Ici-bas, j'ai rien. Job, il avait tout perdu. Tout. Sa femme, il a dit, mais qu'est-ce que tu peux encore être fidèle à Dieu? Maudit Dieu! Et il a dit, écoute, je suis venu sans rien et je m'en vais sans rien. Voilà, pourquoi devrais-je maudire Dieu? Je suis venu sans rien et je m'en vais sans rien. C'est ça. La femme de Lot, c'est pareil. Dieu, il les a délivrés de la cité de Sodome. Hein? Et il a dit, partez, mais ne regardez pas en arrière. Parce qu'ils étaient une famille assez riche. Hein? Mais la femme, l'ange l'a dit, partez, mais ne vous retournez pas. Laissez les choses qui sont derrière vous. Ça ne vous concerne plus. Regardez devant maintenant. Cette femme, elle s'est retournée pour voir ce qu'il arrivait. Elle est devenue une statue de sel. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit à nous. Ne vous occupez pas de ce que vous étiez, mais occupez-vous de ce que vous êtes. Et encore une fois, toutes ces choses-là, ils ont été préparées par Dieu. Par Dieu. Et nous devons faire confiance à ce Dieu-là. Mais regardez dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Encore à toutes ces choses-là, être sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ a été établi avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et c'est Jésus qui est venu, il a été fait le médiateur entre l'homme et Dieu. Et c'est le seul médiateur. La Bible nous dit, il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Ne vous tournez pas vers les saints. Ils ne peuvent rien. Aujourd'hui, on le fait beaucoup. J'ai pris Saint Jean ou Saint Pierre pour qu'ils puissent... aller vers Dieu et demander qu'il me fasse grâce. Mais Dieu, il est là. Pourquoi se tourner vers ses acolytes et pas vers lui? Pourquoi prier un saint quand Dieu, il est là? Je me tourne directement vers Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, pour arriver au président de la République, il faut passer par les secrétaires, il faut passer par ça. Mais nous nous tournons vers Dieu. Et Dieu, il est partout. Nous pouvons prier Dieu partout. Et il est toujours à l'écoute, comme quelqu'un, il avait dit, les téléphones de Dieu, ils ne sont jamais occupés. Jamais. Encore une fois, avant la fondation du monde. Et ce Jésus, ce Fils de Dieu, pas seulement il est le médiateur, mais Dieu, il a tout remis entre ses mains. Jean 5, regardez ce qu'il dit. Jean 5, le verset 22. Jean 5, 22. 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. À qui il veut, il donne la vie à qui il veut. 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tout jugement au Fils. Et si vous avez le Fils dans votre cœur, si vous l'avez accepté en tant que Seigneur et Sauveur, il y a ces fameux versets de Romains qui nous dit, maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous est dit, il donne la vie Hein? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pas une vie passagère comme celle qu'on vit ici-bas. Hein? Ici-bas, il y a un rendez-vous auquel on ne peut pas manquer. C'est la mort. Voilà. Nous devons tous mourir. Et après vient le jugement, il nous dit la Bible. Mais si on a Jésus-Christ, on ne passe pas par le jugement. Voilà la bénédiction. Et toutes ces choses-là, elles ont été décidées avant la fondation du monde. Regardez un autre verset dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 34. C'est Jésus qui parle. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Hein, on l'a lu dans Éphésiens, nous avons reçu toute bénédiction spirituelle. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ce royaume que Jésus il va instaurer ici-bas lorsqu'il va revenir, il a été préparé avant la fondation du monde. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, Dieu, il est là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, tiens, non, tout est établi d'avance. C'est ça le grand Dieu que nous avons. Rien lui échappe, tout est préparé d'avance. Si nous faisons sa volonté, notre vie sera bénie. Parce qu'on a à côté de nous Dieu. Et il y a un autre verset dans Épître aux Hébreux. Regardez encore. Je vous l'ai dit, on va lire beaucoup, mais c'est des choses que Dieu dit. C'est pas moi. Chapitre 9. Le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants? Ici, c'est exactement. Il s'est donné lui-même par l'Esprit éternel. Avant la fondation, tout était décidé. Le Père, il a préparé le salut. Le Fils, il l'a accompli. Et le Saint-Esprit, il l'a dirigé en toutes choses. Il n'y a rien qui échappe. C'est un esprit éternel. C'est pas quelqu'un qui a été créé, le Fils. Il a toujours été là. Et il sera toujours là. Et il ne change pas. Il nous l'a dit lui-même. Je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. C'est ce qu'il nous dit, hein. Et ensuite, une fois que ils ont disposé toutes ces choses-là, alors, on revient à la création. Genèse chapitre 2. Hein, Dieu qui crée l'homme et la femme. Hein, vous pouvez les voir tous ces versets. Hein, Genèse 2, 7, le verset 16. Il les a placés dans un jardin et il leur donne ce commandement. Voilà, au milieu de l'arbre, au milieu du jardin, il y a un arbre. Vous ne devez pas manger ce fruit. Verset au chapitre 3, on voit que Adam et Ève, ils mangent de ces fruits. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont chassés du jardin. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans les péchés. Ils ont désobéi à Dieu. Comment ces gens-là, nous qui sommes dans les péchés, je l'ai dit la semaine dernière, hein, Dieu ne nous condamne pas parce que Adam et Ève a péché. J'ai entendu des gens qui disent, mais si Adam et Ève a péché, pourquoi est-ce que ce péché, il est sur moi? Pourquoi j'ai cette nature pécheresse? C'est pas ma faute, c'est Adam et Ève qui ont péché. Dieu ne nous condamne pas pour les péchés d'Adam et Ève, mais il nous condamne pour notre propre péché. Et qui n'a pas péché? Qui n'a pas péché? Il n'y en a pas. Si nous mourons, c'est parce que nous avons péché. C'est que nous avons péché. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit comme ça, « Ah, mais moi, je ne pêche pas. » J'ai dit, « Vous êtes heureux et vous n'allez pas mourir. » Mais on doit tous y passer. Hein? Ce que la Bible nous dit, hein? « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Voilà, on est dans les péchés. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? Ben, Jésus, il nous le dit clairement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si nous croyons dans le Seigneur Jésus, si nous nous repentons de nos péchés, si nous changeons de vie, car les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle, si nous restons à l'écoute de cet esprit qui habite en nous, alors Jésus nous donne la vie éternelle. Alors, comme je dis toujours, si vous allez en enfer, ne vous plaignez pas auprès de Dieu. Ah, Dieu, il est méchant. Dieu n'est pas amour. Il envoie les gens en enfer. Non, si les gens ils vont en enfer, c'est parce qu'ils le veulent. Dieu, il a tout fait pour que l'humanité il soit sauvée. Dieu, il a tout préparé pour que l'humanité soit sauvée. Mais Ézéchiel nous le dit. Il y a un verset qui nous dit, « Ô homme, pourquoi veux-tu mourir ?» J'ai tout préparé pour toi, pour que tu sois heureux. Pourquoi est-ce que tu veux mourir? On vit dans un monde qui n'a pas d'espérance. Et Dieu, il nous dit, à tous ceux qui lui font confiance, j'ai de l'espérance pour toi. J'ai de l'avenir pour toi. Alors pourquoi ne pas nous tourner vers Dieu? Car cet avenir est sûr et personne ne peut nous l'enlever. Amen.